RCF.
L'Hebdo-Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette Hebdo-Région. Nous allons commencer dans quelques instants avec l'actualité de la semaine. Dans le cadre des élections législatives, les agriculteurs syndiqués de la FDSEA interpellent tous les candidats aux législatives partout dans la région. Et Bastien Lallier de RCF Anjou a rencontré le secrétaire général de la FDSEA du Maine-et-Loire. La rencontre de la semaine nous emmène en Sarthe avec Aubery Métro de RCF Le Mans qui nous livrera un témoignage bouleversant, celui d'une mère dont la fille est partie rejoindre Daesh en Syrie. Après les vélos et les voitures en libre-service, va-t-on également partager le toit de sa maison avec le covoiturage ? D'ici fin juin, la coopérative Cowatt proposera aux particuliers et aux entreprises de mettre à disposition leur toiture pour accueillir des panneaux solaires. Présentation de cette initiative avec Florent Godard de RCF Anjou. Dans la pause spirituelle, Samuel Pecot de Fidélité Mayenne nous fera rencontrer l'auteur d'un one-woman show, un peu différent de ce que l'on pourrait retrouver d'habitude dans les salles de spectacle. Il s'intitule « Et si Dieu était laïque ?» écrit et joué par Marie-Christine Bernard, professeure de théologie à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Et enfin dans la rubrique « Et si on sortait ?», nous vous invitons à la grande fête du diocèse de Luçon en Vendée qui fête cette année ses 700 ans d'existence. Découvrez le programme avec Fanny Brevet de RCF Vendée. Voilà donc pour le sommaire de cette émission. C'est l'Hebdo-Région qui vous est présenté par Thomas Cochebray de RCF Vendée en collaboration avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'Hebdo-Région, l'actu de la semaine.
À un peu plus d'une semaine du premier tour des élections législatives, la campagne bat son plein. Les candidats à la députation tractent, font du porte-à-porte, mais ils sont également très sollicités. Bastien Lallier, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors Bastien, cette semaine, de nombreuses antennes de la FDSEA, le syndicat agricole majoritaire, organisaient leur journée porte-voix.
Oui Thomas, une journée durant laquelle l'organisation syndicale a reçu les différents candidats aux législatives. 1h30 d'échange à chaque fois avec un représentant FDSEA par circonscription. Alors à ce rythme-là, difficile de s'entretenir avec tous. Rien que dans le Maine-et-Loire, ils sont 84 au total. Pour autant, pas question d'être accusé de favoritisme. Emmanuel Lachaise, secrétaire général de la FDSEA 49, a distribué ses invitations en fonction des résultats aux dernières présidentielles.
On n'a pas sélectionné les candidats. Nous sommes partis sur un principe où on a invité les cinq partis qui sont arrivés en tête dans notre département. Et leurs candidats donc ont été sollicités pour répondre à cette journée du 30, où en fait on les rencontre individuellement pour leur demander la vision qu'ils ont, eux, de l'agriculture, qu'est-ce qu'ils attendent et qu'est-ce qu'ils veulent porter au niveau national comme agriculture. Et puis ensuite, nous, on vient avec nos propositions.
Des propositions très concrètes déjà portées dans le cadre des élections présidentielles.
Nous, on a pris comme axe de travail, en fait, d'aborder les problématiques sous trois angles, donc c'est-à-dire sous l'angle économique, environnemental et social. Donc, si on prend une mesure qu'on demande à l'heure actuelle à ce qu'elle soit modifiée sur la mesure sociale, c'est déjà donc sur le compte pénibilité. Le compte pénibilité qui est inapplicable aujourd'hui à des structures d'exploitation comme les nôtres, c'est-à-dire des très petites entreprises, ce carcan administratif. Donc il faut vraiment adapter à une spécificité agricole, si on part donc sur le compte pénibilité, sur le volet social. Si je prends une mesure sur le volet économique, nous on demande aujourd'hui à ce qu'il y ait vraiment un travail qui soit fait sur le partage de la valeur ajoutée au sein de la chaîne alimentaire, entre le producteur et jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire jusqu'à la distribution de nos produits. Puisqu'on ne peut pas tenir aujourd'hui tel qu'on le vit, on demande vraiment qu'on réinverse la tendance. Il faut partir du coût de production chez les producteurs et on remonte la chaîne alimentaire pour aboutir à un prix final. Mais on ne part pas d'un prix final donc à l'aval pour dire, en fait, bah, les producteurs, il vous reste quelques broutilles, il vous reste quelques centimes du litre de lait ou il vous reste quelques euros du kilo de viande bovine. Nous, on demande à ce que la mécanique s'inverse. Et sur la partie environnementale, bon, nous, on va insister essentiellement dans notre département sur la gestion de l'eau, c'est-à-dire la création de réserves pour sécuriser l'autonomie fourragère pour les éleveurs, pouvoir stocker l'eau pour tout éventuel aléa climatique et la sécheresse qu'on peut vivre à l'heure actuelle, où cette année, on avait donc des réserves qui étaient à moitié pleines à cause d'un hiver très sec.
Et dans le Maine-et-Loire, toute la journée de mardi a été consacrée à ces échanges, des échanges riches d'enseignements pour le syndicat. Un syndicat qui, même s'il se veut apolitique, affiche sa préférence.
Je ne sais pas si y a un parti qui prend plus les questions agricoles plus à cœur que d'autres. Nous, on soutiendra de toute façon toujours ceux qui défendent l'Europe, parce qu'on sait de toute façon que c'est à cet échelon-là qu'aujourd'hui l'enjeu de l'agriculture, il se situe. Et donc tous les candidats qui soutiennent donc le niveau européen et qui veulent faire bouger les lignes et améliorer le fonctionnement au niveau de l'Europe, forcément, on a une oreille attentive avec eux. On a fait ce choix dans le département justement de ne pas sélectionner les candidats pour éviter d'être catalogués et puis d'être identifiés à tel ou tel parti. Donc c'est pour ça qu'on a recensé les cinq premiers, puisque nous, on a toujours été apolitiques, même si, je répète, on a quand même une tendance à soutenir tous ceux qui ont cette vision européenne de la politique agricole commune.
Un des propos d'Emmanuel Lachaise, le secrétaire général de la FDSEA dans le Maine-et-Loire.
Voilà des propos recueillis par Bastien Lallier de RCF Anjou à l'occasion de cette journée porte-voix organisée par la FDSEA et les jeunes agriculteurs dans de nombreux départements en France ce mardi. Allez, on continue à cette hebdo-région. C'est l'heure maintenant de la rencontre de la semaine.
L'hebdo-région, rencontre avec...
Cette rencontre de la semaine nous emmène en Sarthe avec Aubery Métro de RCF Le Mans. Bonjour Aubery.
Bonjour Thomas.
Alors aujourd'hui, vous nous livrez un témoignage bouleversant, celui d'une mère dont la fille est partie rejoindre Daesh en Syrie.
Oui, Léa avait 16 ans lorsqu'elle est partie en Syrie. Elle est tombée amoureuse d'un garçon et s'est faite embrigader par l'État islamique. Depuis, sa mère parcourt la France pour tenter de sensibiliser les parents et les jeunes femmes. Elle était près du Mans cette semaine à Alonne pour participer à un ciné-débat qui était organisé par le Centre Social. Cela fait 4 ans que Valérie de Boisrollin n'a pas vu sa fille, mais elle s'envoie tout de même de temps en temps des textos pour maintenir le lien entre Alep et la France.
On parle un peu de, on va dire, de tout. Elle va me parler de son enfant, elle va me parler un petit peu, bon ben quand même plus ou moins des conditions de vie, mais elle m'en parle pas tellement, c'est assez compliqué. Je dirais qu'on essaye de continuer ce côté fusionnel qu'on avait, hein, que jusqu'au moment qu'elle est partie, parce qu'on était vraiment très très proches toutes les deux. Après voilà, c'est ma fille, je reste quand même sa maman, mais quelque part je me dis que des fois je discute avec une jeune fille que je ne connais plus, donc il faut aussi trouver les mots pour pouvoir aussi continuer à garder ce lien. La conversation, des fois, c'est quelques petits messages comme ça. Ça nous rassure parce qu'on se dit, bon, elle est toujours vivante. Je dirais que ce n'est pas des messages qui durent pendant des heures et des heures. Hein. Nous, on n'adhère pas, on n'est absolument pas d'accord. Donc, c'est vrai qu'on est toutes les deux, chacune dans un combat qui est complètement différent aujourd'hui aussi.
Alors, en 2013, lorsque Léa est partie, sa mère n'a pourtant pas repéré les signes.
Ah oui, à l'époque, la sensibilisation en fait n'existait pas encore vraiment. Les adolescents qui partaient faire le djihad étaient marginaux. Et puis, ce qui a vraiment surpris la mère de Léa, c'est qu'il n'y avait rien qui la prédestinait à se convertir à l'islam.
Moi, mes parents sont de confession catholique. Donc, en plus, bon, c'est vrai que notre fille a toujours été dans une école privée. Donc, c'est des écoles privées, tout souvent, elles sont catholiques. Avec son grand-père, elle parlait effectivement de la Bible, des choses comme ça. Au niveau de la religion, on en parlait ouvertement à la maison, mais elle n'avait pas une religion qui était plus intéressante pour elle qu'une autre. Et surtout, elle ne nous avait jamais vraiment parlé qu'elle voudrait peut-être un jour se convertir à l'islam ou quoi que ce soit. Là, vraiment, jamais, jamais. Elle ne nous en avait jamais parlé. Bon, après, notre fille, elle n'avait que 16 ans aussi. Après, il y a des jeunes filles ou même des jeunes hommes qui ont déjà effectivement des idées sur leur propre religion, ce qui n'était pas le cas de notre fille, hein, pas du tout.
Et comment Valérie vit-elle cette absence ?
Eh bien, au début, elle a beaucoup culpabilisé, puis elle a été suivie par des psychologues et des psychiatres. Et petit à petit, elle a en quelque sorte fini par faire le deuil de sa fille de 16 ans qu'elle ne reverra plus.
C'était vraiment absolument, comme, je ne sais même pas comment l'expliquer, tellement qu'on a été anéantis qu'au départ, on a beaucoup culpabilisé, puisque bon, on s'est dit, on a manqué à notre devoir de parents, puisqu'on nous l'a aussi souvent répété, que peut-être que voilà, si on avait surveillé plus notre fille, ses fréquentations, mais après, avec réflexion, en faisant un vrai travail sur soi, en rencontrant aussi d'autres parents, on n'a pas culpabilisé, parce qu'on a fait aussi notre devoir de parents, on a élevé, éduqué notre enfant, on lui a donné des valeurs, et je pense que de toute façon, comme on a toujours dit, il n'y a pas de recettes pour de bons parents ou de mauvais parents, mais je me dis que de toute façon ça peut toucher n'importe quelle personne. On nous enlève nos enfants, parce que moi j'appelle aussi ça un enlèvement, et surtout pour nos jeunes filles, sachant que quand elles partent là-bas, ce sont des ventres, elles sont là pour donner naissance à d'autres futurs combattants. Il faut faire de la prévention pour peut-être un jour arrêter cette hémorragie.
Et ce qui a beaucoup aidé Valérie de Bois-Rollin, c'est écrire aussi. Elle a publié en Brigadé aux éditions de la Presse de la Cité. Et puis elle participe à des clips avec d'autres parents pour sensibiliser le plus possible à la radicalisation des adolescents.
C'était Aubery, métro de RCF Le Mans. Merci beaucoup Aubery pour ce témoignage très fort. Chers amis auditeurs, on poursuit cette hebdo-région des Pays de la Loire. Direction maintenant le Maine-et-Loire pour y découvrir l'initiative de la semaine.
L'hebdo-région, initiative.
Après les vélos et les voitures en libre-service, va-t-on également partager le toit de sa maison avec le co-toiturage ? D'ici fin juin, la coopérative Coat proposera aux particuliers et aux entreprises de mettre à disposition leur toiture pour accueillir des panneaux solaires. Pour qui ? Eh bien, pour des collectifs de citoyens désirant investir dans les énergies renouvelables. Et tout ça sans se ruiner. Alors chacun pourra en effet contribuer à partir de 100 euros. En contrepartie, celui qui héberge les panneaux signe un bail et récupère une partie de l'électricité. La création de la coopérative Coat est prévue ce mois-ci. Le nom est un mélange entre le co de collectif et le mot watt, l'unité qui mesure la puissance électrique. La coopérative couvrira l'Anjou, la Loire-Atlantique et la Vendée. Florent Godard de RCF Anjou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes allé donc sur le terrain, Florent, et apparemment cette solution répond à un vrai besoin local.
Oui, effectivement, car aujourd'hui, si vous êtes un petit groupe de militants ou simplement des voisins de quartier et que vous voulez créer ensemble une centrale photovoltaïque, que ce soit pour 10 000 ou 100 000 euros, eh bien mieux vaut être bien organisé. Jusqu'ici, chaque collectif devait créer sa propre société juridique et s'armer d'un bon courage pour apprendre les réglementations. Mais désormais, Coat s'en charge. Demain, il suffira d'intégrer la coopérative en devenant actionnaire à partir de 100 euros pour être accompagné de A à Z. Pierre Peignier, l'un de ses créateurs, nous explique le concept.
Coat va assurer la sélection technique des toitures. Coat assure la gestion de la relation avec les installateurs pour assurer que les installations se font correctement et gère l'exploitation et assure la maintenance en cas de besoin des toitures en vendant l'électricité à EDF. Les revenus de l'électricité permettent de dégager des bénéfices, pour partie utilisés pour rémunérer les actionnaires de Coat, mais aussi à financer des actions de sensibilisation et d'éducation sur la question de transition énergétique. Il y a des projets qui ne voient pas le jour, justement, parce que c'est des projets techniques. Et cette question technique et la non-maîtrise par des profanes fait que les très nombreux candidats à ce genre de projet n'envisagent même pas de s'y lancer. Du coup, l'idée, c'est là d'avoir un interlocuteur qui gère cette complexité pour eux.
Au final, les collectifs d'investisseurs locaux se concentrent surtout sur la présélection des toitures et la récolte des fonds. À court terme, l'ambition de Coat sera d'installer les premières toitures solaires avant la fin de l'année 2017. Un objectif atteignable car plusieurs associations et collectifs locaux ont déjà frappé à sa porte.
Alors la plus avancée, elle n'est pas dans le Maine-et-Loire, elle est à Guérande. Sur le département, on commence à avoir plusieurs communautés qui voient le jour. On en a une à Rabelais-sur-Layon, une en cours de création à Saint-Saturnin-sur-Loire, dans le Segréen, sur Péloy-les-Vignes. Ce genre d'initiative, il y en a vraiment dans toute la France. Et donc on espère bien, nous ici, les multiplier en Anjou. Ouais.
Pour réussir son pari, la future coopérative pourra compter sur un coup de pouce de taille, celui du parc naturel Loire-Anjou-Touraine, car ce dernier cherche également à faire émerger des projets photovoltaïques. Florence Buneau-Richard, chargée de mission pour le parc naturel.
En juin dernier, on a fait un appel à toiture et il y a 120 propositions qui depuis nous ont été faites. De petites toitures de moins de 60 mètres carrés chez des particuliers jusqu'à des choses plus grosses dans des collectivités. Des agriculteurs, encore plus gros, et jusqu'à plusieurs milliers de mètres carrés pour des industriels. On a un objectif de déjà avoir 4 projets participatifs d'ici un an et demi maintenant. Et nous, de toute façon, on souhaite monter des communautés. Et ensuite, on transmet le flambeau à Coat, qui va pouvoir accompagner ces communautés.
Pour information, derrière cette initiative, on retrouve les associations Alizé et Élise, toutes deux spécialisées dans la maîtrise de l'énergie. Objectif pour Coat, gérer un parc de 1000 toitures d'ici 5 à 10 ans. Un parc qui pourrait alors absorber la consommation électrique hors chauffage d'une petite ville d'environ 5000 habitants. Mais le pari est double, il s'agit aussi de sensibiliser la population aux économies d'énergie et ce serait déjà une petite victoire.
Et puis à noter qu'une réunion d'information aura lieu en Anjou le 7 juin à 20h à Saint-Georges-sur-Layon. Plus d'informations sur le www.cowatt.fr. Merci à vous Florent Godard de RCF Anjou pour cette initiative. Allez, cette fois-ci nous quittons définitivement le Maine-et-Loire, direction la Mayenne pour y faire la pause spirituelle. Et pour cette pause spirituelle, nous retrouvons Samuel Pécaud de Fidélité Mayenne. Bonjour Samuel.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous.
Des conférenciers sur la religion, des auteurs de livres sur la foi, nous avons souvent l'occasion d'en interroger sur nos radios chrétiennes, mais des comédiens qui consacrent un spectacle à Dieu, c'est beaucoup plus rare, et pourtant c'est le défi que s'est lancé Marie-Christine Bernard, qui montera sur les planches près de Laval ce samedi soir pour tester son tout nouveau one-woman show intitulé « Et si Dieu était laïque ?».
Oui Thomas, alors j'imagine que le nom de Marie-Christine Bernard n'est pas totalement inconnu pour beaucoup d'auditeurs, notamment les auditeurs sartois, puisqu'elle est laïque consacrée, qu'elle vit au Mans et qu'elle propose des chroniques sur RCF Le Mans. Mais elle aussi est probablement connue des auditeurs du Maine-et-Loire, puisqu'elle est professeure de théologie à l'Université catholique de l'Ouest, à Angers. Mais c'est donc bien en Mayenne, à Changé, tout près de Laval, effectivement, qu'elle se lance dans l'aventure du théâtre. Une nouvelle forme d'évangélisation pour elle, après les conférences et les livres. Et d'ailleurs, ce spectacle « Et si Dieu était laïque » est tiré de son 5e livre, sorti en avril dernier.
Et oui, après avoir écrit des livres qui intéressent les lecteurs, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un support qui permette de rejoindre ceux qui lisent moins et qui lisent même plus du tout, peut-être. Certains peinent parfois avec la lecture. Alors le spectacle vivant permet de rejoindre ces personnes.
C'est certain, mais un bon auteur ne fait pas forcément un bon acteur. Alors comment la théologienne est devenue comédienne? C'est ce que nous explique Marie-Christine Bernard.
Alors je suis théologienne, spécialiste en anthropologie, c'est vrai. J'enseigne à la faculté de théologie d'Angers, je coach des chefs d'entreprise, je fais des conférences. D'ailleurs je suis venue plusieurs fois en Mayenne auprès de la direction diocésaine de l'enseignement catholique par exemple, pour faire des conférences. Donc ça, je dirais, c'est mon métier de base. Mais j'ai voulu trouver un support qui permette de rejoindre des personnes qui, encore une fois, ne lisent pas ou ne viennent pas dans ce genre de réunion un peu plus sérieuse, un peu plus formalisée, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas le spectacle vivant? Alors comme mon métier de conférencière m'a permis de développer, au fond, un certain nombre de réflexes et de trucs, entre guillemets, qui sont ceux des comédiens, parce qu'il s'agit de faire passer ce qu'on a envie de faire passer à un public, eh bien, il me semble que le terrain était suffisamment mûr pour que j'essaie de me lancer. Alors, je me suis fait aider par Madame Menant, qui habite à Laval, et qui m'a, en tant que metteur en scène, alors elle professionnelle, comédienne professionnelle, elle m'a aidé à mettre ma conférence en forme scénique. Et puis, c'est grâce à elle que j'ai pu avoir la confirmation que, bah oui, ça valait le faire, comme elle m'a dit, oui, ça va. Tu as les dons d'une comédienne, ça va le faire.
Alors vous l'avez entendu, hein, c'est la rencontre avec son metteur en scène mayennais qui explique que la laïque consacrée sartoise monte pour la première fois de sa vie sur les planches dans notre département. Deux dates test pour ce spectacle, la seconde ça sera samedi soir à 20h30 à Changé. Et il reste des places pour découvrir ce spectacle qui n'hésite pas à aborder des sujets sensibles pour les croyants.
D'abord, j'ai voulu que ce spectacle soit constructif, qu'il soit bienveillant. C'est-à-dire, je ne stigmatise aucune religion. J'ai voulu qu'il y ait un petit peu de rire, mais pas trop, parce que bon, l'humour aussi, c'est bien, mais on finit par être fatigué. Mais par contre, il y a de la poésie. Et puis, on aborde des sujets qui finalement ne sont pas si simples, de la liberté, de la souffrance, de qu'est-ce que c'est que vivre, qu'est-ce que ça veut dire être sauvé, etc. Et paradoxalement, si je crois les personnes qui ont entendu ce spectacle et qui m'en ont parlé à la sortie, et qu'ils soient croyants ou pas croyants, eh bien, ils repartent avec un regard beaucoup plus positif sur ce qui peut-être nous être bénéfique du côté de la vie spirituelle.
Alors le titre du spectacle, je le rappelle, c'est « Et si Dieu était laïque ?» avec un point d'interrogation, un titre qui forcément interpelle, et interpeller, c'est justement ce que souhaitait Marie-Christine Bernard.
Et oui, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que ça interpelle. J'ai retrouvé dans la Bible en particulier ces endroits où par les prophètes, Dieu exprime son ras-le-bol, et très curieusement et très paradoxalement, son ras-le-bol des religions, en tout cas des réflexes religieux. Et ces réflexes religieux qu'on a tous, eh bien je crois que quand on écoute et qu'on suit la voix du Christ, on est invité à se convertir justement, à se tourner autrement quand il s'agit d'essayer d'être fidèle à Dieu et de lâcher ces réflexes de religiosité qui nous encombrent plus qu'autre chose et qui cassent la tête à Dieu, je crois.
Alors si vous souhaitez vous faire vous-même votre opinion sur ce spectacle, n'hésitez pas à venir samedi soir aux ateliers des arts vivants à Changé près de Laval. L'entrée est fixée à 10 €, et si ces deux soirées test s'avèrent concluantes, Marie-Christine Bernard mettra en place ensuite une tournée dans toute la France pour, comme elle le dit, évangéliser différemment.
Merci beaucoup Samuel Pecot de Fidélité Mayenne de nous avoir présenté donc ce One Woman Show de Marie-Christine Bernard, qui est par ailleurs professeure de théologie à l'Université catholique de l'Ouest. Et justement, on en parle, l'Université catholique de l'Ouest qui continue avec son actuel directeur Dominique Vermersch, qui rempile donc pour un second mandat, un nouveau mandat de 5 ans qu'il va entamer dès le 1er septembre prochain. Âgé de 56 ans, le recteur de l'UCO est également agronome, directeur de recherche à l'INRA et professeur à AgroCampus Ouest.
L'Hebdo Région, si on sortait.
Et nous retrouvons Fanny Brevet de RCF Vendée. Bonjour Fanny.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors ce dimanche de Pentecôte, 4 juin, l'église en Vendée s'apprête à vivre la grande fête de son jubilé.
Près de 2200 Vendéens et Vendéennes sont déjà inscrits sur le site www.jubilé2017.org. Au Vendespace à Mouillon-le-Captif, chacun est invité à cette grande fête, quel que soit son âge et ses liens avec l'église. Écoutez le père Jean Bondu, vicaire général du diocèse.
Oui, c'est un appel à tirer les leçons de l'histoire. Et voilà pourquoi nous regardons l'histoire. Mais nous ne regardons pas l'histoire pour nous émerveiller de ce qui s'est passé et point. Nous regardons l'histoire pour inventer l'avenir. Et donc, nous serons ensemble à regarder les 7 siècles que notre Église a vécu, sans oublier qu'avant 1317, il y avait déjà des chrétiens dans le Bas-Poitou. Donc, nous regardons tout ça tranquillement avec les figures d'Hilaire, les figures marquantes de notre diocèse, Grignoux-Montfort, etc. Et puis... au cœur de la fête, nous regarderons aussi ce qu'est notre monde aujourd'hui et comment l'Église peut être présente à ce monde. Le pape François nous lance des défis à relever pour une présence de l'Église à ce monde, pour relever les défis d'aujourd'hui qui sont différents de ceux d'hier et nous envoyer. Et donc notre évêque interviendra au cours de cette fête aussi dans l'après-midi pour nous dire voilà où je vous attends, vous les chrétiens de Vendée.
Et peut-être qu'on pourrait... s'intéresser au passé ou en tirer des exemples, des choses qui pourraient nous servir pour l'avenir, pour la mission du chrétien dans l'avenir.
Alors c'est pour ça qu'on regarde notre histoire, tout à fait.
À quelqu'un qui n'a pas de passé ou qui ne connaît pas son histoire, n'a pas d'avenir.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est d'ailleurs curieux comment les 700 ans de notre diocèse commencent déjà à porter des fruits aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en regardant l'histoire, on découvre que finalement, nos difficultés, d'autres en ont connu de semblables et les ont dépassés. C'est Dominique Souchet qui, dans sa conférence au mois de janvier sur l'histoire du diocèse, avait dit « Notre histoire, elle peut se résumer entre épreuve et renouveau ». Eh bien, finalement, faisons, à partir de cette histoire, de nos difficultés, de nos épreuves, de nos différences, une richesse, un défi à relever, des obstacles à surmonter.
Un grand jeu du jubilé à faire en famille ou en groupe est proposé dans la matinée dans le parc de Beaupuy autour du Vendespace. Et la suite nous est présentée par celui qui est chargé de l'organisation de l'événement, Jean-François Joguet.
J'ai envie de vous donner que des informations pratiques. C'est-à-dire que venez comme vous êtes, comme le dirait un célèbre slogan d'une marque de fast-food américain. Déjà, c'est la première chose, c'est venez comme vous êtes, avec quelque chose à partager le midi, puisqu'en fait, il va y avoir un grand banquet où, en fait, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de discrimination aucune, que vous puissiez venir avec un paquet de cacahuètes ou avec un cake aux olives. L'idée, c'est que vous veniez comme vous êtes le matin. Vous avez possibilité de venir en famille ou tout seul. Voilà, il n'y a aucune forme de discrimination, ce qui est une notion assez intéressante aussi, et le fait est que vous pourrez assister à faire un rallye à l'intérieur au parc de Beaupuy et puis revenir pour partager un pique-nique. Alors on vient avec son pique-nique, alors il y a tout ce qu'il faut comme contrôle parce que il y a des notions à intégrer qui sont évidemment de sécurité, on peut pas faire n'importe quoi par les temps qui courent, et en fait tout ça est très bien organisé et très bien sécurisé pour partager un pique-nique avec des mouvements comme le Secours catholique qui va organiser ça très bien, la pastorale des migrants qui sera aussi parmi nous, et donc de fait pour organiser ce grand pique-nique, il y aura également un concert de pop louange organisé avec Timothéo, qui est un groupe. Donc il y a un moment un peu festif sur l'esplanade du Vent d'Espace, pardon. Et puis on ira ensuite dans le Vent d'Espace pour vivre un grand moment de célébration qui sera vraiment le moment solennel d'anniversaire de ce diocèse. Donc là, je veux pas en dire plus parce que ça recèle de surprises.
Voilà, alors pour toutes les informations, c'est sur le www.jubilé2017.org et s'il est désormais trop tard pour vous inscrire, vous pouvez venir directement sur place dans la limite des capacités d'accueil du Vent d'Espace. Près de 200 bénévoles s'activent en ce moment pour préparer l'événement. L'accès au site sera sécurisé et bien encadré, comme l'exigent les normes actuelles d'organisation de grands événements.
Merci beaucoup Fanny, puis je vous souhaite un excellent week-end de la Pentecôte.
Bon week-end à vous aussi.
Allez, il est l'heure maintenant de se quitter. C'est la fin de cette hebdo région des Pays de la Loire qui vous était présentée par la rédaction de RCF Vendée avec l'aide des rédactions de vos radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.